Décryptage, Marie Cazadebé.
Petite révolution en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Depuis lundi, leurs habitants payent la TVA, une taxe sur la valeur ajoutée de biens et de services. Une première dans des pays où la notion d'impôt était jusque-là quasi inexistante. Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar doivent y venir un peu plus tard. Point commun évidemment de ces pays, des recettes tirées essentiellement de leurs hydrocarbures et un besoin aujourd'hui de diversifier leur économie. Alors pourquoi avoir choisi la TVA? Cette mesure sonne-t-elle le glas de l'État-providence dans ces pays? Comment est-elle perçue par les nouveaux contribuables? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Jean-Pierre Favennec.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes consultant, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'énergie. Si l'on parle de révolution avec cette taxe, il faut peut-être commencer par rappeler à nos auditeurs que jusqu'à lundi, les Saoudiens et les Émiriens ne payaient pas d'impôts. La fiscalité était vraiment absente des monarchies pétrolières du Golfe jusqu'à cette semaine, jusqu'à ce nouvel an.
Absolument. Vous avez même un pays comme le Qatar où apparemment l'essentiel de l'eau et de l'électricité est gratuite.
Alors comment fonctionnent ces pays?
Essentiellement avec la manne pétrolière, enfin, c'est-à-dire les ventes de pétrole. Si on prend l'Arabie Saoudite, on va prendre quelques chiffres, pas trop en prendre, mais l'Arabie Saoudite produit chaque année environ 500 millions de tonnes de pétrole, en exporte environ 300 à 400. Ça représente des sommes qui se chiffrent en milliards et en dizaines de milliards de dollars. Donc, et ces sommes vont dans les caisses de l'Aramco, qui est la société nationale qui a un monopole, et cet argent va évidemment en grande partie alimenter le budget de l'État. Il reste une petite partie à l'Aramco pour financer ces opérations.
Ça veut dire que vraiment le pétrole finance tout dans la vie des Saoudiens?
Le pétrole finance l'essentiel, on va dire. Le pétrole finance l'essentiel. Et tout ça marche très bien lorsqu'on a un prix du pétrole qui monte. Ce qui a été le cas entre 2000 et 2008, il est passé de 10 à 150 dollars le baril. Ensuite, il est tombé, mais pas très longtemps. Il est remonté assez vite. Il était à 100 dollars le baril pendant très longtemps, jusqu'en 2014. Donc à ce moment-là, tout va bien. 100 dollars, d'ailleurs, j'expliquais souvent que le prix du pétrole qui était un bon prix du pétrole devait être de l'ordre de 80 dollars le baril pour permettre à la fois de payer les opérations mais également de remplir les besoins de financement des pays de l'OPEP qui presque tous dépendent à 80-90% du pétrole. Donc la situation c'était qu'à 100 dollars le baril tout le monde s'en sortait très bien. Le prix du pétrole est tombé brutalement à 50, je ne vais pas rentrer dans les détails, des fois c'était moins, des fois c'était plus, et à partir de ce moment là, effectivement, on a commencé à avoir des problèmes. L'Arabie Saoudite s'est retrouvée en 2015 et en 2016 avec un déficit budgétaire de l'ordre de 100 milliards de dollars. Et encore, ce sont des chiffres, mais 100 milliards, et donc il fallait bien trouver des solutions.
Finalement, l'Arabie Saoudite aura mis une année, un peu plus d'une année pour réagir. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette chute de la croissance dans ces pays-là, à cette raison d'instaurer maintenant une taxe, finalement de changer d'économie? Est-ce que vraiment le prix du pétrole est là? Et l'unique raison?
Oui, le prix du pétrole est la raison, je répète. Donc, on avait un déficit de 100 milliards. Alors, l'Arabie Saoudite, dans un premier temps, lorsque le prix du pétrole est tombé en 2014, parce qu'on s'est rendu compte, finalement, ça paraît stupide de le dire comme ça, je le dis très vite pour ne pas y passer trop de temps, on s'est rendu compte que potentiellement, on avait beaucoup de pétrole, en particulier les fameux pétroles de schiste américains que l'on a vu arriver sur les marchés. Et là, dans un premier temps, l'Arabie Saoudite a dit, moi, je ne veux pas baisser mon prix. D'habitude, l'Arabie Saoudite baisse sa production de manière à rétablir les équilibres de marché et à faire remonter le prix du pétrole. Cette fois-là, en 2014-2015, l'Arabie Saoudite a dit non, je ne change rien, mais je vais même augmenter ma production de pétrole parce que moi, je produis du pétrole à un prix très bas, à un coût très bas, alors que les Américains produisent à un coût très haut. Donc pourquoi réduire une production à bas coût, si je peux me permettre, pour permettre une production à un coût plus élevé? Donc ils n'ont rien fait et il a fallu. Alors ça a duré un certain temps, on est arrivé aux 100 milliards de déficit et là il a fallu faire quelque chose.
La croissance démographique de ces pays, est-ce qu'elle compte? Elle est assez forte. Finalement, c'est partager le même gâteau à de plus en plus nombreux.
Oui, bien sûr. Il y a aussi le problème de la croissance démographique qui est très importante. C'est une des régions du monde, c'est la région du monde où la croissance démographique est la plus élevée. Alors, on est dans un état, quand on regarde le Golfe Persique, faut le regarder, je crois, un peu dans son ensemble. Il y a aussi des problèmes d'équilibre. L'Iran est un pays avec une très grande population, de l'ordre de 90-95 millions. Les autres états, l'Arabie Saoudite avait une population faible en 1960. Maintenant, on doit être à tout alentour de 35 millions d'habitants. Et ça augmente très vite. Donc ça joue. Quand vous parlez parliez de répartition du gâteau, c'est clair que le gâteau est un peu plus petit, sachant qu'il y a quand même une grosse part du gâteau qui va à la famille royale, qui représente quelques milliers d'individus, et le reste va à l'ensemble de la population, sans parler évidemment du personnel immigré.
Cela veut dire que même si les prix du pétrole n'avaient pas autant chuté, ces pays auraient dû à un moment réfléchir à un changement d'économie.
Je pense qu'à $100 le baril, ils pouvaient s'en sortir encore pendant un certain temps. Ce qu'essaye en particulier le nouveau Premier ministre d'Arabie Saoudite, et je me limite à l'aspect économique, ce que veut faire ce nouveau Premier ministre, ce que beaucoup de pays ont voulu faire, c'est diversifier l'économie, faire en sorte que l'économie ne dépende pas uniquement du pétrole. Certes, aujourd'hui, il y a en Arabie Saoudite donc la production de pétrole, il y a des industries pétrochimiques, il y a des industries qui tournent autour du gaz, mais c'est limité. Et donc, il y a une volonté de diversifier l'économie, et également d'ailleurs de privatiser en partie la grande société, l'Aramco, de manière à générer des millions et des centaines de millions de dollars qui pourraient permettre d'alimenter ce plan de développement.
Finalement, cette solution de diversifier l'économie, peut-être d'instaurer des impôts aussi, est-ce qu'elle ne vient pas du FMI, le Fonds Monétaire International? Christine Lagarde avait sérieusement encouragé ces pays-là aussi à préparer l'avenir.
Oui, surtout que l'une des choses dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que dans ces pays, le prix de l'essence, par exemple, est extrêmement bas. Il y a l'exemple caricatural que je cite toujours, qui n'est plus moins le cas maintenant. Au Venezuela, le prix de l'essence est de l'ordre de 1 à 2 centimes d'euros du litre. Je dis bien 1 à 2 centimes d'euros du litre. Dans les pays du Golfe, le prix de l'essence est souvent 20, 30, 40 centimes d'euros du litre. C'est-à-dire, c'est moins en France. Quand vous payez un 60, vous avez là-dedans au moins largement un euro de taxe. Donc, mais il reste un prix de revient, si l'on peut dire, pour parler de manière comme au cours moyen, de 60 centimes. Dans les pays du Golfe, on est très en dessous de ce prix. Donc, il y a une nécessité aussi d'augmenter progressivement le prix de ces produits.
On le disait, aujourd'hui deux pays ont instauré la TVA, d'autres vont suivre. Pourquoi décident-ils tous d'imposer une TVA et à peu près à la même période? Est-ce qu'il y a une concertation entre les monarchies du Golfe?
Vous citiez un certain nombre de pays tout à l'heure. J'ai noté que vous citiez le Qatar.
Je ne pense pas qu'il y ait concertation actuellement entre le Qatar,
l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est clair. Non, je pense qu'il y a partout un besoin mais le Qatar est dans une situation un peu particulière, parce que le Qatar est particulièrement riche. Le Qatar, évidemment, on sait qu'il produit beaucoup de gaz. Énormément de gaz, mais le gaz ne rapporte pas énormément d'argent. Ce que je dis, faudrait le développer, mais il rapporte moins d'argent que le pétrole pour des quantités équivalentes. Par contre, le Qatar produit également beaucoup de pétrole, et la population du Qatar est très faible, c'est 250-300 000 habitants.
Alors, vous parlez du Qatar, je voudrais juste vous faire écouter le PDG de Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kabi, c'était en juin dernier. On comprend que finalement, le Qatar n'a pas l'air tout à fait prêt à revoir son système économique.
Nous allons augmenter nos capacités de production de gaz naturel liquéfié de 77 millions de tonnes par an à 100 millions, c'est-à-dire une augmentation de 30% d'ici 5 à 7 ans.
Jean-Pierre Favennec, on a l'impression, en entendant le PDG de Qatar Petroleum, que le pays compte vraiment sur ses hydrocarbures, toujours et autant. Est-ce que la situation est un peu différente de ses voisins? Lui compte attendre encore une année pour instaurer la TVA.
Oui, le Qatar, de toute façon, il a des réserves de gaz absolument gigantesques. Il avait plafonné d'ailleurs cette production, qui a déjà un niveau élevé. Maintenant, ils veulent franchir un étape supplémentaire. Il s'agit là plus de décisions politiques, stratégiques pour se placer sur le marché du gaz. Bon, l'instauration de la TVA se fera, je pense, effectivement, parce qu'il y a quand même besoin. Et je répète, le Qatar est encore une exception par rapport à des pays qui sont quand même riches. Mais si on compare l'Arabie Saoudite et le Qatar, l'Arabie Saoudite, plus de 30 millions d'habitants. Le Qatar, 2,5 millions ou 3 millions d'habitants. Mais seulement une petite fraction de Qataris, de nationaux Qataris. Et avec
beaucoup
tout le respect que j'ai pour eux, les étrangers qui viennent construire les stades, par exemple, pour la Coupe du Monde de football, ne bénéficient pas tout à fait des mêmes avantages. Les Qataris nationaux, je répète, ne payent pratiquement pas l'eau, ne payent pratiquement pas l'électricité, payent un prix de l'essence très bas. Ils ont des avantages de crédit pour acheter des maisons qui sont extraordinaires. Donc, les deux situations ne sont pas les mêmes, et le Qatar a encore du temps un peu devant lui.
Vous parliez de population étrangère. Un tiers de la population de l'Arabie Saoudite est composée d'expatriés, de leurs familles. Est-ce que c'est pour cela que c'est la TVA qui a été introduite comme premier impôt en Arabie Saoudite, dans une TVA donc de 5% sur les biens et les services, plutôt qu'un impôt sur le revenu, par exemple ?
Bah, je pense que c'est, vous avez sans doute raison, mais la TVA est un impôt relativement simple à mettre en place. Mmh. C'est un impôt que certains qualifient d'injuste puisque tout le monde le paye et souvent les pauvres en payent un peu plus, si l'on peut dire, puisqu'ils consomment davantage. Mais c'est l'impôt le plus simple à mettre en place puisque vous le mettez en place et l'argent rentre immédiatement. Un impôt sur le revenu, c'est extrêmement complexe, ça va poser des tas de questions. Et je pense que cet impôt, cette TVA, j'assume ce que je dis, c'est quelque chose donc qui passe assez facilement dans la population. Comme quand vous allez à la pompe, bon, quand on vous augmente la taxe, vous râlez un peu, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est un peu indolore.
En attendant, elle risque quand même de peser sur la consommation des ménages qui sont déjà affectés, on imagine, par une croissance au ralenti. Est-ce que cette taxe peut vraiment aider ces pays à se relever ?
Je pense qu'il ne s'agit pas pour le moment de se relever, puisque si on prend l'Arabie Saoudite une fois encore, j'ai cité tout à l'heure le fait qu'il y avait eu un déficit énorme de 100 milliards de dollars, mais c'était en 2015-2016. Il y a déjà une chose qui a été faite quand même, c'est la décision des pays producteurs de pétrole depuis maintenant un peu plus d'un an, c'était au mois de décembre 2016, de réduire un peu leur production et le prix est remonté. Le prix était tombé à des niveaux très bas, de l'ordre de 30-40 dollars le baril, enfin, c'est peut-être beaucoup, mais c'est 30-40 dollars le baril comparé à 100, il est revenu à plus de 60 actuellement. Il pourrait revenir à 65-70. Donc, on a déjà ce premier redressement qui est dû à cela. Il y a les réductions des subventions qui vont être accordées à tous les produits de première nécessité, l'essence, l'électricité, etc. Tout ça va être progressivement réduit en particulier, mais pas seulement, recommandation du Fonds monétaire international dont on a parlé. Et puis, l'augmentation donc de la TVA va venir, la création de la TVA va venir. Il y a aussi donc en Arabie Saoudite cette volonté, bon, on ne sait pas très bien où on en est exactement, mais de privatiser en partie la Aramco. Et les chiffres qui sont annoncés sont colossaux. Ça représente plus que des centaines de milliards de dollars.
Jean-Pierre Favennec, tout à l'heure, vous avez évoqué le Venezuela. J'imagine que c'est vraiment le contre-exemple,
absolument,
la situation que tous ces pays-là veulent éviter. Ils pourraient suivre ce chemin si vraiment ils ne faisaient rien. C'est vraiment comme ça qu'on peut expliquer la chute.
Non. Je pense que
du Venezuela et aujourd'hui sa situation extrêmement dramatique économiquement.
C'est une très bonne question. Le Venezuela, c'est quand même un exemple, je me permets de dire caricatural. C'est un pays qui a commencé à produire du pétrole il y a maintenant plus de 100 ans, qui a produit beaucoup de pétrole, qui a été le second producteur de pétrole pendant la guerre mondiale, qui a permis donc aux armées américaines, en particulier européennes, de faire la guerre. Donc c'est un pays qui a produit énormément. Et on voit la situation. Si vous voulez, je vais prendre une comparaison. Souvent dans des pays, quand vous avez, on a cette idée de malédiction du pétrole, the oil curse, etc. Il y a une réalité derrière. Alors, je fais souvent une comparaison aux étudiants qui est la suivante. Alors, elle est peut-être mauvaise, mais je leur dis, écoutez, vous avez de la chance, je suis là aujourd'hui, je vous fais court, parce que hier, je suis allé au casino, mais au casino, j'ai perdu. Si j'avais gagné, je ne serais pas venu aujourd'hui. J'aurais gagné beaucoup d'argent et j'aurais rien fait. Et ça, ça détruit un peu l'activité, ce qu'on appelle aussi la maladie hollandaise. C'est-à-dire, c'est le fait que cet argent qui tombe du ciel n'est pas du tout une incitation à travailler. Et d'autres, je ne dis pas que les gens ne font rien, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais évidemment, il n'y a pas d'incitation. Un pays comme le Nigeria, dont on parle beaucoup, c'est un pays qui en 1960 était pauvre, qui ne produisait pas encore de pétrole, mais qui était autonome au point de vue de sa nourriture. Et dans une époque récente, une grande partie de la nourriture est importée.
Ce qui est compliqué, difficile à imaginer, c'est comment on budgétise, comment on gère le budget d'un pays finalement qui dépend autant d'un produit fluctuant, dont le prix est fluctuant sur les marchés. On imagine que déjà des impôts comme la TVA permettent aussi de voir venir, de pouvoir se projeter dans l'avenir. On compte juste sur le cours du baril.
Si j'étais provocateur, je dirais que finalement, il n'est pas tellement volatile, le prix du pétrole. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il est resté relativement modéré, on va dire, jusqu'en 2000, sauf pendant l'époque des chocs pétroliers. Et déjà, d'ailleurs, on a eu cette situation où les pays se sont retrouvés avec une manne pétrolière. Le prix du pétrole est monté à 30, il est tombé à 10. Il a fallu faire quelque chose. Puis ensuite, à partir de 2000, il est monté tranquillement. Et tout le monde s'est habitué tranquillement, dans les pays producteurs évidemment, à voir l'argent du pétrole augmenter. Bon, ça s'est cassé la figure en 2008, mais c'est reparti. C'est vraiment depuis 2014 que l'on a cette situation. Et là, il faut vraiment restructurer un peu les économies. Je termine en disant que c'est sans doute différent pour un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a une grande population qui a des besoins de développement importants, comparé à des pays comme le Koweït, comme le Qatar et comme les Émirats Arabes Unis, qui ont des populations beaucoup plus limitées et qui pourraient à terme, d'ailleurs, vivre essentiellement des revenus des placements du pétrole.
Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un reportage réalisé en mai 2016 par nos confrères de France 24 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ce pays a été obligé, en 2016, de supprimer certaines subventions et vous allez entendre, ça passe pas très bien.
Avec un baril à $40 comme aujourd'hui, le manque à gagner pour les finances publiques atteindrait les 60 milliards de dollars par an. Pour remplir les caisses, l'État émirien s'est tourné vers les étrangers. Il a adopté de nouvelles taxes hôtelières, aéroportuaires et sur les loyers des expatriés. Mais pour la première fois, les locaux sont aussi mis à contribution. Les autorités ont mis fin à de nombreuses subventions sur l'essence, l'eau et l'électricité. L'ère des services publics gratuits pour les Émiriens semble révolue.
Je suis d'accord de participer plus, si c'est pour économiser de l'argent à mon pays. Mais si je paie plus, je devrais recevoir quelque chose en échange, des services supplémentaires.
Avant, ces deux managers d'hôtels de luxe, comme tous leurs concitoyens, ne payaient pas l'eau courante.
Jean-Pierre Favennec, on l'entend, déjà les suppressions de certaines subventions passaient mal, payer sa facture d'eau, c'était problématique. Comment l'imposition d'une TVA est perçue aujourd'hui, alors en Arabie Saoudite et donc aux Émirats Arabes Unis?
Il est difficile de, comme vous l'avez mentionné, ça vient d'être, c'est le deuxième ou troisième jour que cette TVA est en vigueur. Bon, elle est quand même de 5%, donc ça reste relativement limité, c'est pas négligeable. Hein. Si on augmentait la TVA en France de 20-25%, ça ferait des dégâts. Donc, ça va faire augmenter les prix des produits. Mais, je répète, la population va sans doute réagir, mais je crois qu'il y a tout un processus pédagogique, je suis sans doute optimiste, pour faire comprendre à la population, comme c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le court extrait, que, eh bien, avec un pétrole à $50 plutôt que 100, ou même à $60 plutôt que 100, la situation n'est pas du tout la même.
Il y a eu sûrement alors donc un travail de sensibilisation, d'explication à ces nouvelles règles du jeu. Est-ce que cela risque pas aussi de changer un peu les rapports entre les nouveaux contribuables et leurs autorités? Avant, il n'y avait pas du tout cette notion d'argent.
Bien sûr, on dit souvent que la démocratie, enfin le fait de payer des impôts, le fait que vous payez des impôts, que moi je paye des impôts, me donne le droit d'avoir un regard sur ce que fait le gouvernement. Non seulement d'ailleurs en matière économique et fiscale, mais également d'une façon plus générale. Ça crée un lien, ça crée une dépendance en quelque sorte, ou une obligation pour le gouvernement de rendre compte à la population de ce qu'il fait. Et on était dans un système, dans les pays producteurs de pétrole, sans gérer comme plutôt des monarchies, ou bien ces monarchies prennent l'argent du pétrole, la rente pétrolière leur revient naturellement et pas question de la redistribuer, sauf entre eux. Et donc, cette situation fait qu'il n'y a aucun... La population, le deal finalement, il est, je te donne tout ce que tu veux, tu as de l'argent, tu as de l'essence à bon marché, de l'eau gratuitement dans certains pays, de l'électricité, mais en échange, tu me laisses gérer le pays comme je l'entends.
Est-ce qu'on pourrait imaginer en Arabie Saoudite, aux Émirats, de nouveaux impôts? On part de la TVA et on imagine d'autres impôts. Je pense, on l'a évoqué tout à l'heure, les impôts sur le revenu. Est-ce que ça pourrait être l'étape suivante et lointaine ou non?
Écoutez, je peux pas, là, c'est difficile de répondre. Personnellement, je pense que le passage, toutes les mesures qui sont prises actuellement, les mesures donc de réduction des subventions, les mesures d'imposition de la TVA, la volonté de privatiser peut-être partiellement l'Aramco devrait éviter d'aller vers un impôt sur le revenu, qui me semble quelque chose qui devient quand même là, si vous me permettez, ce terme anglais, un peu touchy, un peu sensible.
Politiquement, donc, ça passerait pas, vous pensez?
Je peux pas vous le dire. En France, ça passe, mais on passe son temps en France, par exemple, et dans beaucoup de pays, à réduire les impôts sur le revenu. Ça, c'est clair. Donc, les mettre en vigueur dans ces pays-là, je crois qu'il y a, si je résume beaucoup, la situation n'est pas simple. Il y a des trous à combler et des réserves à constituer pour permettre le développement. Mais je n'irai pas vers un impôt sur le revenu pour constituer ces réserves.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Favennec. Merci. Consultant, professeur à Sciences Po. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Éléonore Krenik, Déborah Lepage, Claude Battista. Décryptage continue sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, poser vos questions à l'annonce du sujet du soir. L'émission aussi est à réécouter sur RFI.fr. Restez avec nous. Dans moins d'une minute, toute l'actualité africaine sur la radio du monde.